Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien, pour vous accueillir aujourd'hui dans cette spéciale élection présidentielle. Aujourd'hui, je reçois Lionel Jolot, conseiller régional communiste du Centre Val-de-Loire, ancien secrétaire départemental du Parti communiste de Ré-Loire. Je dis ancien, mais vous co-présidez, si j'ose dire, le secrétariat aujourd'hui aux côtés de Gisèle Quérité. Alors, ensemble, Lionel Jolot, nous allons évoquer la candidature de Fabien Roussel, crédité de 4,5% d'intention de vote selon le dernier sondage IFOP. Alors, ce n'est pas si mal, me direz-vous, mais insuffisant pour envisager un second tour. En revanche, si l'on additionne les 4,5% de Fabien Roussel avec les 11,5% de Jean-Luc Mélenchon, on est à 15, et là, ce n'est plus la même chanson. La gauche de la gauche pourrait envisager d'être au second tour face à Emmanuel Macron. Alors, ma première question est donc la suivante. Pourquoi le Parti communiste et la France insoumise n'ont-ils pas fait cause commune? Je suis à peu près sûr que cette question, les électeurs de la gauche, se la posent aussi.
Bonjour, oui, tout à fait. C'est une question qui revient souvent dans les discussions avec d'autres personnes, d'autres citoyens. Déjà, c'est un choix des communistes de vouloir présenter un candidat à la présidentielle, car on ne l'a pas fait depuis plusieurs élections précédentes. Et donc, il nous a semblé utile de porter une voix originale, spécifique du Parti communiste français, qui est quand même un parti... bien qu'on le dise souvent mort et décédé, eh bien, qui est bien vivant avec de nombreux élus locaux. Et donc, nous portons une voix particulière à gauche, la voix des classes populaires, des classes moyennes, la voix du travail, mais dans le bon sens du terme, ceux qui veulent avoir plus d'argent, plus de temps pour vivre. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons décidé de nous présenter au présidentiel. Nous avons souhaité, évidemment, qu'il y ait un rassemblement à gauche, mais bon, il n'a pas été possible. Il ne faut pas se cacher la vérité. S'il y a beaucoup de points d'entente avec Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, ou Yannick Jadot pour les Verts, voire Christine Taubira qui s'est retirée, il y a quand même des points de désaccord, de divergence sur l'Europe, sur le nucléaire, sur comment regagner les abstentionnistes des classes populaires qui ne vont plus voter. Donc, entre autres, je pourrais multiplier les différences. Et donc, on pense qu'il faut donner un choix aux électeurs de gauche, déjà qui reviennent vers le vote, pour leur montrer que la gauche peut proposer autre chose que ce qu'elle a fait, en plus, malheureusement, de manière très négative pendant 5 ans, lors du dernier mandat de François Hollande, qui a été une catastrophe pour la gauche, hein, totalement. Et si on est dans cette situation aujourd'hui en France, avec un président qui se dit ni de gauche ni de droite, donc qui est bien à droite, bien sûr, comme d'habitude, eh bien, voilà, le Parti socialiste, et y compris les écologistes, hein, qui étaient au pouvoir avec François Hollande, porte une responsabilité de cette désaffection à gauche. Et donc, nous, on veut regagner le cœur, le vote, la confiance des électeurs de gauche pour qu'ils retrouvent le chemin de la volonté politique et de l'action. Donc voilà. Et en plus, bon, c'est toujours compliqué d'ajouter des chiffres de sondage, car l'arithmétique générale n'est pas l'arithmétique politique. Hein. Même quand on cumule parfois les scores, ça ne veut pas dire automatiquement que ça s'ajoute. Hein. Parfois, des 11 et 15, ça donne du 12-13 et parfois, ça dépend. Ça dépend s'il y a une dynamique ou pas. Donc voilà. En plus, nous avons démarré la campagne avec un candidat qui était quasiment inconnu, hein, faut se le dire, hein, qui ne passait jamais dans les médias. En quelques mois, il est passé de 0,5%, moi je l'ai vu dans des sondages à 0,5%, à pratiquement 5%, même si les choses ne sont pas encore acquises et définitives. Donc, et on a...
un capital sympathie. Hein,
oui, un très fort capital sympathie. Quand on va sur les marchés, aux portes des lycées, aux portes des entreprises, les gens nous disent « Ah oui, Fabien Roussel, c'est quelqu'un qui parle de nos problèmes, dans lequel on se reconnaît. » Donc, et il y a un intérêt pour nos propositions. Donc, ça prouve qu'on a bien fait d'y aller. Et et puis on verra. Alors après, ça c'est la présidentielle, mais derrière il y a les élections législatives, et nous, en Eure-et-Loire, par exemple, on a fait un appel, et qui est passé récemment dans la presse locale, au rassemblement de toutes les forces de gauche autour d'un pacte minimum, je dirais, d'engagement commun pour l'Eure-et-Loire, pour pouvoir avoir des candidatures de rassemblement sur les 4 circonscriptions et regagner au moins une ou deux circonscriptions à la droite, qui est quand même largement, ou la droite, ou les macronistes, qui sont largement majoritaires et même, je dirais, de manière excessive. Parce que pour l'instant, il n'y a qu'une tendance qui est représentée au conseil départemental, par exemple, alors que dans le département, la droite ne fait pas, et les macronistes ne font pas 100% des voix, quoi. Ouais.
J'en viens donc aux différences entre vous et la France insoumise. Vous avez notamment cité le nucléaire. Et il semblerait que l'histoire vous donne raison, hein, un peu contre le leader de la France insoumise, puisqu'on va avoir besoin du nucléaire précisément à cause de la guerre en Ukraine, qui sera le deuxième sujet d'ailleurs.
Bah, oui, par rapport aux problèmes énergétiques, on voit bien que la France a besoin de maîtriser ses ressources énergétiques. Donc ça passe par, évidemment, davantage d'énergies renouvelables. On ne se cache pas la vérité là-dessus non plus. Il y a besoin de faire davantage sur l'éolien, sur l'hydraulique, parce que la France est un grand pays où on peut développer encore l'hydroélectricité davantage. Donc, et puis, en même temps, dans l'attente de mettre en route toutes ces énergies renouvelables, il y a besoin du nucléaire, hein, qui est une énergie décarbonée. Donc, bien sûr, avec les contrôles indispensables et toutes les précautions qu'il faut, mais...
On a plutôt des centrales sécurisées, quand même.
En France, oui. Après, il peut se passer des incidents. Il ne faut pas non plus être complètement naïf. Mais bon, globalement, il y a quand même des organismes qui sont chargés, indépendants, de vérifier le bon fonctionnement de ces centrales nucléaire. Donc voilà, on n'est pas du tout pour le tour nucléaire. On sait bien qu'à un moment il faudra évoluer vers d'autres formes d'énergie. Et puis, nous, on dit, nous voulons bien sauver le climat, mais par contre, nous ne voulons pas sauver le capitalisme, parce que il y a des gens qui disent il faut sortir du nucléaire, mais qui n'agissent pas contre le capitalisme. Hein, je pense entre autres à certaines idées développées par les écologistes. Donc ça ce n'est pas possible. On peut à la fois sauver le climat et en même temps sortir de ce système capitaliste qui mène vers la destruction de la planète, parce qu'évidemment là on voit bien que toutes les atteintes à la nature, à la biodiversité menées par le capitalisme au nom des intérêts de quelques-uns sur cette planète, quoi. Oui.
Alors on a aussi le sentiment qu'entre vous et la France insoumise, il y a cette différence qui est assez, à mon avis, notable, concernant, par exemple, on accuse souvent la France insoumise ou d'autres partis d'islamo-gauchisme. Le Parti communiste échappe à cela, peut-être finalement grâce à Fabien Roussel qui parlait l'autre jour de l'entrecôte et du vin rouge en disant que ça fait partie de la culture française, etc. Est-ce que finalement, c'est pas par des petites phrases comme ça aussi qu'on arrive tout simplement à fidéliser les lecteurs?
Alors ce n'est pas seulement une petite phrase, parce que un des objectifs de notre campagne, c'est par exemple de dire il faut qu'en France, on puisse manger à sa faim et bien manger. Oui. Parce que on nous explique qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Il y a des Français qui sont très loin de pouvoir s'acheter 5 fruits et légumes par jour. Donc on nous dit qu'il faut manger bio, etc. Le bio coûte de plus en plus cher et les Français, eux, ont de moins en moins d'argent. Donc bien sûr, il faut manger mieux et peut-être moins de viande, mais il faut déjà pouvoir en manger un petit peu. Et donc il y a besoin d'augmenter le pouvoir d'achat, les salaires, les minima sociaux, les retraites. Là, j'entends Macron nous dire qu'il va passer la retraite minimum
à 65 ans.
Non, alors ça c'est autre chose, mais à 1200 euros minimum. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant 5 ans? Pourquoi il ne l'a pas fait tout de suite? Je vous rappelle que s'il y a un minima pour les retraites agricoles à 1000 euros, c'est grâce à l'action du député communiste André Chassaigne que ça s'est fait. La majorité macroniste a couru derrière André Chassaigne pour pouvoir le faire passer. Mais vous voyez que quand les communistes sont à l'offensive sur certains domaines, eh bien les choses ont avancé. Et à chaque fois que les communistes ont été en position de faire avancer le progrès social en France, hein, je ne veux pas reprendre la sécurité sociale, sociales et bien d'autres choses, et bien les choses ont avancé positivement pour les gens. Donc voilà, il y a besoin de mieux manger, et donc pour cela il faut aussi avoir un meilleur pouvoir d'achat. Et là, dans la situation actuelle, avec ce qui se passe sur le plan international, nous avons quand même de grandes craintes que on va nous sortir un plan de résilience qui va encore satisfaire les intérêts des grandes entreprises qui déjà se sont quand même largement gavées grâce à la pandémie et qu'on a laissé faire, et qu'on ne va pas prendre de vraies mesures pour le pouvoir d'achat des gens. On nous parle de mesures pour les familles modestes, mais tant mieux, on verra la réalité, mais il n'y a pas que des familles modestes en France, il y a d'autres familles qui n'arrivent plus à vivre, et y compris dans les classes moyennes.
Oui. On a vu une contestation ces dernières années enflée en France. Il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes, un mouvement social qu'on n'avait jamais vu depuis très très longtemps tout de même. Un vrai mouvement populaire du coup. Mais il n'a pas permis, notamment au Parti communiste, d'engranger de nouveaux militants, de nouveaux électeurs. Comment ça se fait ?
Alors, le mouvement des Gilets jaunes, il avait des caractéristiques intéressantes, avec beaucoup de gens qui venaient du monde des retraités, des ruraux, qui se sentaient complètement délaissés, et à juste titre. Ce mouvement avait des aspects intéressants, mais il en avait d'autres moins positifs, car on voyait bien qu'il y avait une forme d'entrisme de la part de certains partis d'extrême droite, hein, qui ont essayé de détourner...
Mais aussi d'extrême gauche, hein, la France insoumise a aussi...
Oui, essayé... mais on aurait le droit, on a plus vu l'extrême droite, ouais, que l'extrême gauche. Donc, et en plus, ce mouvement, il a connu une répression terrible de la part du pouvoir, ouais, actuel. Le nombre de manifestants gilets jaunes qui ont été éborgnés, blessés, etc., mutilés, et en plus, qui ont subi des peines de prison. En France, soyons clairs, manifester en France devient de plus en plus compliqué et difficile, même quand on le fait de manière pacifique, car ça ne plaît pas au pouvoir actuel. Donc, alors après, dans ce mouvement, il y avait des communistes, hein, qui ont participé. Sur Chartres, moi, je connais des personnes qui sont allées sur les ronds-points, qui ont discuté sur d'autres perspectives politiques que celles qui étaient proposées. Après, il y a eu des débats. Ce mouvement a tenté de se structurer sur le plan politique, mais bon, ça n'a pas abouti à grand-chose, hein, malheureusement. On espère que d'autres mouvements vont redémarrer. Bon, jeudi prochain, il y a une grande manifestation interprofessionnelle à l'appel des syndicats pour le pouvoir d'achat, le 17 mars. Ben, espérons qu'il y aura beaucoup de gens qui descendront dans la rue pour demander plus pour le SMIG, plus pour la fonction publique, plus pour les salaires dans le privé, et les retraites et les minima sociaux, bien sûr.
Oui. Vous avez intitulé votre programme « Les jours heureux ». On n'a pas le sentiment, quoi qu'il arrive, qu'on va vers les jours heureux compte tenu du contexte international. Évidemment, je vais vous poser des questions sur l'Ukraine. Quelle est la position officielle du Parti communiste français sur la guerre en Ukraine ?
Alors, notre position est claire. C'est nous demandons, bien sûr, le cessez-le-feu immédiat, l'arrêt de cette guerre qui ne devrait pas avoir lieu. Nous sommes, bien sûr, totalement solidaires du peuple ukrainien. Je dis bien du peuple ukrainien, parce que on pourrait reparler du pouvoir ukrainien qui n'est quand même pas exemple de tout défaut. Mais par contre, nous, ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont les civils, hein, qui subissent les bombes, la famine, l'exil. Donc ce n'est pas possible. Nous, on appelle toutes les communes, y compris les communes où il y a des maires communistes ou apparentés, à accueillir des réfugiés s'il y a besoin. Notre journal L'Humanité a lancé une grande opération il y a 2 jours pour la solidarité en relation avec le Secours populaire pour pouvoir apporter une aide à ce peuple. Et nous pensons que la France, elle doit jouer un rôle important pour la paix et, je dirais, pour le développement de cette paix. Il y a besoin de faire davantage. Pourquoi Macron n'a pas percuté avec Poutine ? Ben parce qu'il est considéré par Poutine, et j'allais dire entre guillemets à juste titre, comme un fidèle allié des Américains et de l'OTAN. Et donc la France n'a pas une position originale, spécifique, comme à l'époque de De Gaulle, par exemple. Donc on revient à une période que des anciens ont connue.
Oui, De Gaulle a parlé avec Staline en 1945. De Gaulle a parlé ensuite avec d'autres dirigeants
de l'URSS. De Gaulle avait reconnu, un des premiers pieds à reconnaître la Chine populaire, par exemple, alors, oui, que d'autres ne voulaient pas. Donc il y a besoin de sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN dans lequel Sarkozy nous a fait rentrer, déjà dans une première étape. et d'avoir notre propre volonté politique. Moi, quand j'entends les discours d'un certain Dominique de Villepin, moi, ça me satisfait totalement. Et ce n'est pas un gauchiste, un révolutionnaire ou un bolchevique, hein, Dominique de Villepin. C'est un ancien Premier ministre sur lequel on a combattu quand il avait mis en place le contrat jeune, je ne sais plus comment il s'appelait. Donc voilà. Donc nous, on dit qu'il faut continuer à isoler Poutine et tous les oligarques qui sont autour de lui. Il faut un cessez-le-feu. Il faut une conférence de paix engagée par les Nations Unies, réunissant l'ensemble des États européens, avec l'Ukraine et avec la Russie, car il faut discuter avec tout le monde, y compris avec l'actuel agresseur. Il faut demander l'exigence du respect du droit international. Hein. Alors, on parle là de l'Ukraine, et donc je pense qu'il faut le respecter. C'est un peu dommage que certains l'oublient quand, par exemple, l'État d'Israël attaque les territoires palestiniens. Il n'y a pas de respect du droit international. Donc, oui, ou l'Azerbaïdjan qui attaque l'Arménie.
Là ou aussi, les États-Unis, l'Irak, sans les résolutions.
Encore plus. Mais oui. Là, la France avait joué un rôle important. Oui. Et elle avait refusé d'entrer dans cette guerre. Et donc, on peut là remercier l'attitude du Premier ministre Dominique de Villepin à l'époque. Et il faut surtout agir pour l'interdiction des armes nucléaires. Car là-dessus, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Et il faut en même temps prendre des mesures pour protéger les Français des conséquences. Alors, de la guerre en Russie, alors, en sachant quand même que ces conséquences, elles sont nouvelles, mais elles se rajoutent à d'autres problèmes qui existaient avant. L'énergie avait commencé à augmenter avant, hein. C'est pas, il n'y avait pas la guerre en Russie. On nous parlait déjà de blocage du prix de l'énergie. L'essence avait commencé à augmenter. Il y a une mesure. Hein, si on baisse les taxes de 50 centimes, on peut tout de suite agir pour le pouvoir d'achat des Français. Or, pour l'instant, on préfère nous dire non, c'est pas possible parce que ça va faire moins pour le budget national. Mais par contre, quand il faut faire des cadeaux aux grands groupes. Je dirais pas à toutes les entreprises, aux grands groupes du CAC 40 qui ont fait des profits fantastiques pendant la pandémie, ou en particulier les groupes pharmaceutiques, hein, parce que nous on a demandé la levée des brevets sur les vaccins, ça n'a pas été fait, et donc ça permet aux groupes américains et d'autres de se remplir les poches. Donc voilà, donc il y a besoin d'agir pour stopper immédiatement ce conflit le plus vite possible, et en même temps aider tout de suite les Français avec des mesures qui puissent leur permettre de vivre, parce que là, je sais pas, on voit un gasoil à 2,20 €, mais c'est impossible. Oui. Et c'est pas avec un chèque à 100 euros qu'on donnait sous forme d'aumône qu'on va régler les problèmes des gens.
Quoi. Oui. La désindustrialisation de la France depuis tellement d'années, est-ce que vous avez des propositions à faire pour réindustrialiser notre pays ?
Alors en effet, c'est un des piliers avec d'autres. Entre autres, on a un plan pour la jeunesse qui est extrêmement important pour la France. Alors sur la réindustrialisation de la France, nous, on est très favorable à la création de nouveaux pôles publics, par exemple un pôle public de l'énergie qui permettrait de baisser le prix de l'énergie en renationalisant Engie et puis Enedis, voilà, je cherchais le terme. Mais aussi on pourrait nationaliser dans d'autres secteurs, des secteurs bancaires qui ont besoin, comme avec la Générale, avec AXA, etc. Dans le domaine des transports, de l'alimentation, et surtout de créer un grand pôle public du médicament. On voit bien que ce pôle public du médicament, il aurait été très utile dans le cadre de la pandémie. Donc il y a des choses à faire dans ce domaine-là. On peut aussi empêcher et taxer les entreprises qui continuent encore à délocaliser pour les contraindre à rester en France. Et par exemple, je rappelle que Fabien Roussel a déclaré aux dirigeants chinois que c'était fini le bon temps. Maintenant, nous, on allait tout faire pour garder nos entreprises en France. Et ça en a fait sourire certains. Mais quand on nous dit que les communistes français sont complètement aplatis devant les communistes chinois, ben c'est faux. Par exemple, ça, c'est faux. Ça, c'est un mensonge qu'on répand dans les médias. Au contraire, nous, on défend les entreprises françaises. Et en même temps, il faut aussi améliorer les conditions de travail des salariés français. Nous, on est pour la retraite à 60 ans, parce qu'il y a de quoi largement la financer. On est pour les 32 heures, pour soutenir une proposition syndicale. On est pour augmenter le SMIC et les salaires dans les entreprises privées. Donc, et aussi pour l'égalité professionnelle femmes-hommes. parce que quand même, bilan de 5 ans sur ce thème-là, de la politique de Macron et de Schiappa, c'est nul. On a même parfois baissé des subventions à des associations qui luttaient pour les droits des femmes. Je pense au planning familial. Donc nous, on pense qu'on peut prendre des mesures immédiates. Par exemple, Fabien Roussel s'est engagé, s'il était élu président, en un an à avancer de manière très très forte et très rapidement sur cette question, parce qu'il faut arrêter d'en causer, de déblatérer sur ce thème-là, mais il faut agir concrètement. Et là, il y a des possibilités.
Je voudrais quand même qu'on parle peut-être de l'armement, parce que évidemment l'Allemagne, compte tenu du contexte international, a décidé de se réarmer, donc ça n'était pas arrivé depuis 1945. La France, elle aussi, va augmenter son budget militaire. Il s'agit, bref, pour les Européens, d'acquérir une certaine autonomie, notamment par rapport à l'OTAN, autonomie très relative. Mais est-ce que ça va dans le bon sens, selon vous ?
Non, nous voulons agir pour la paix et le désarmement. C'est un combat qui est des communistes, qui est extrêmement ancien, qui n'est pas nouveau, et nous ne changeons pas sur cette question-là. Que la France, elle ait son armée, son indépendance propre et nationale, ça, pas de souci. Mais il est hors de question pour nous de sortir de l'OTAN pour nous intégrer dans une armée européenne. Ça c'est inenvisageable. Et puis en plus, ça ne fait pas avancer les choses. Il faut au contraire, donc, comme je disais tout à l'heure, interdire les armes nucléaires, prendre des mesures pour supprimer le maximum d'armes en France. Il faut quand même se rappeler que la France est un des pays qui vend le plus d'armes au monde, et souvent à des pays qui sont quand même pas très jolis sur les droits de l'homme. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait une action qui montre la volonté de paix, de désarmement, d'amitié entre les peuples, de solidarité, et non pas une volonté de créer des blocs les uns contre les autres. Alors, une fois, c'est le bloc américain contre le bloc russe, l'autre fois, c'est le bloc américain contre les Chinois, après, ce coup-ci, c'est le bloc européen contre la Russie. Non, il faut essayer de créer de nouvelles relations internationales de coopération. Par exemple, il faut faire beaucoup plus en ce moment pour l'Afrique, pour aider ce pays à sortir de la pandémie, alors qu'ils ont besoin de millions de vaccins. On est en train de jouer un peu du yo-yo là-dessus, alors qu'il y a besoin d'agir. La pandémie ne s'arrêtera dans le monde que quand on aura vacciné autant les Africains que les Européens, les Asiatiques et les Américains. Autrement, il y aura toujours des variants qui vont revenir. Donc là aussi, il y a besoin plus de coopération, d'aide, de solidarité, que d'affrontement entre les peuples.
Pas d'anti-vax chez les communistes.
Ah non. Après, qu'il y ait quelques individualités communistes qui pensent qu'ils sont opposés au vaccin, etc., ça, c'est leur droit le plus strict de penser ce qu'ils veulent, mais ils se trompent. Hein, le vaccin est la solution pour sortir de la pandémie. Il aurait été préférable que ce soit un vaccin français, par exemple. C'est dommage qu'il n'y en ait pas. Alors, Sanofi annonce qu'il va y avoir un vaccin. Bon, c'est un peu tard. Mais en même temps, si la recherche française n'avait pas été liquidée au niveau des crédits et des postes de fonctionnaires dans ce domaine-là, eh bien, on aurait peut-être eu un vaccin rapidement. Non, nous ne soutenons pas les anti-vaccins. Nous sommes pour la vaccination générale et totale, et puis surtout qu'on puisse sortir de cette pandémie qui peut-être peut être un prélude à d'autres formes de pandémie à venir, malheureusement.
Il nous reste deux petites minutes. Je voudrais vous poser une question sur l'idéologie communiste. Qu'est-ce qu'il en reste, en fait ? Est-ce qu'il y a toujours une réflexion au sein du Parti communiste sur les questions idéologiques ? On sait que le PC a, par exemple, abandonné il y a déjà longtemps la dictature du prolétariat. Qu'est-ce qui reste, en fait, du marxisme originel ?
Alors déjà, il faut savoir que le communisme et le marxisme sont des théories vivantes, qu'elles se renouvellent sans cesse et qu'elles essaient de trouver de nouveaux chemins. Donc, ce qu'on met surtout en avant, nous, dans la théorie communiste du XXIe siècle, ou le communisme du XXIe siècle, comme dit Fabien Roussel, c'est les biens communs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut apporter du bien, de la satisfaction pour les besoins des femmes et des hommes de la France, mais aussi de la planète. Et donc là, il faut sortir le maximum de choses du marché, c'est-à-dire la santé, l'éducation, l'énergie, car il y a trop de choses qui sont dans le marché, dans le système capitaliste, dans les intérêts privés, hein, faire de l'argent pour faire de l'argent, et puis on verra bien jusqu'où ça va. Bah, ça va jusqu'à la catastrophe économique, sociale et maintenant écologique aussi, hein. Et donc il y a besoin, donc il y a à la fois des aspects bien communs, il y a les aspects aussi écologiques qui rentrent en jeu maintenant dans la théorie marxiste et communiste. Il y a aussi des aspects féministes, antiracistes, tout ça rentre. Nous avons l'occasion d'en parler un petit peu avec Yann Brossa, le porte-parole de Fabien Roussel, qui vient vendredi prochain, le 18 mars, à 19h, à la salle des fêtes de Mavilliers, où il vient animer une réunion publique. Mais à 18h, il y aura une rencontre avec des jeunes, des responsables syndicalistes, des responsables d'associations, pour évoquer tout l'apport de la candidature Fabien Roussel, mais aussi des communistes français dans les débats d'aujourd'hui et de demain.
Lionel Genot, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc l'ancien secrétaire départemental du Parti communiste d'Eure-et-Loire, mais actuellement conseiller régional du Centre Val-de-Loire. Merci beaucoup.
Devons-nous l'an 2000, quelques heures nous séparent. Quel ordre se profile, quel rapport de pouvoir. Devons-nous l'an 2000, qui aurait pu prévoir qu'il ne restait qu'un fil accroché à l'histoire. Les champs magnétiques de ma déraison, les voix qui me dictent, les cris d'alarme, les mots d'amour qui me hantent, qui m'entourent, qui me hantent, qui m'entourent. Ordre mondial et les Nations Unies. Pas de contre-pouvoir au dollar qui défile. Et puis dans les couloirs, les banquiers qui se faufilent. Derrière nous 2000 ans et des années-lumière. Tyrans sanglants, quelques beaux militaires. Les champs magnétiques de ma déraison, les voix qui me dictent, les cris d'alarme, les mots d'amour qui me hantent, qui m'entourent, qui me hantent, qui m'entourent. Qu'il faut revisiter en partant du sensible. Aux artistes, il est choix des choses à inventer et prendre quelques rêves pour la réalité. Les champs magnétiques m'a des raisons, les voix qui me dictent, les cris d'Allah, les mots d'amour.